Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcaggi.
La Charente-Maritime, le département est plat comme les Pays-Bas. Remarquez, on voit mieux le paysage. Dans les terres, d'un côté de la chaussée, du maïs, de l'autre côté de la chaussée, du maïs. Décidément, dans un département où les nappes sont pompées au risque de l'équilibre géologique. La Seudre, le fleuve qui se jette dans la mer entre la Tremblade et Marraine, le fief de l'ostréiculture, eh bien, la Seudre a son lit posé sur l'argile alimentée par l'eau des nappes phréatiques. Plus la Seudre est à sec, à force que l'eau soit pompée pour le maïs, et plus l'environnement et les huîtres en pâtissent, pour ne pas dire pire. Benoît Biteau est un peu une figure de la région, la figure au sens d'une exception qui confirme la règle. Benoît Biteau est agriculteur bio, au beau milieu de voisins qui font du maïs. Mais tout d'abord, petit retour sur son arbre généalogique.
Mes grands-parents avaient 3 enfants et quand ils ont cessé leur activité, ils avaient laissé à chacun de leurs enfants une ferme de 30 hectares, donc bâtiments et terres comprises. Quand mon frère s'est installé avec moi, il a récupéré l'une de ces 3 structures sur 25 hectares de vignes et 50 hectares de terre. Donc en plus des 2 maraîchers qu'on a installés sur la structure sur laquelle mon père évoluait jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, moi je me suis retrouvé sur la structure restante, on va dire, de tout ça, c'est-à-dire 155 hectares, où étaient majoritairement localisés les 110 hectares de monoculture de maïs depuis 35 ans. Et sur ces 155 hectares, j'ai posé des actes fondateurs, c'est-à-dire que le maïs hybride tel qu'il est proposé par Pioneer ou Monsanto et tout ça, moi je fais plus de maïs de ce type-là. C'est terminé.
Premier effet, l'arrêt progressif de l'irrigation et le choix de l'agroforesterie.
Donc ça m'a permis progressivement de réduire ma dépendance à l'eau, c'est-à-dire que je suis passé des 300 000 m3 de référence qu'avait mon père à 90 000 m3 la première année, 36 000 m3 la deuxième année, 18 000 la troisième année pour arrêter complètement. Depuis 2011, je n'utilise plus une goutte d'eau pour faire de l'irrigation. Je plante des arbres dans un modèle qu'on appelle l'agroforesterie. C'est les arbres qui me permettent de réalimenter les nappes phréatiques, c'est-à-dire que le système racinaire des nappes envoie l'eau vers la nappe. Et à l'inverse, en période d'été, quand l'eau se fait plus rare, c'est les mêmes racines qui remontent l'eau à la surface et permettent d'alimenter hydriquement mes cultures qui sont installées entre les arbres.
Stop l'irrigation, retour également de la prairie.
J'ai remis en place des prairies, c'est-à-dire sur des zones où le maïs n'avait rien à y faire, où la pratique du maïs était juste incohérente avec une bonne gestion de la ressource en eau. J'ai remis de l'herbe parce que ça redonne des vocations territoriales cohérentes, c'est-à-dire que sur des zones où on doit pouvoir stocker l'eau jusqu'au début de l'été, faire partir l'eau de ces zones-là pour y mettre du maïs au mois de mai, et pour demander à avoir accès à l'eau pour irriguer du maïs qui n'a rien à faire là, enfin je veux dire, ça, c'est la politique des shaddocks, hein. On vide l'eau pour installer le maïs et une fois que le maïs est installé, on a recours à l'eau pour le faire pousser. Enfin, alors que de l'herbe, ça fonctionne très bien. Ça pose la question d'ailleurs de à quoi sert le maïs.
Le maïs, la pompe afrique.
Les aides-pac sont très favorables au maïs. Quand on est maïsiculteur, on trouve 30% d'aide de plus que quand on n'est pas maïsiculteur. À l'époque, il était considéré que l'eau était une ressource inépuisable et que donc on pouvait y aller, on pouvait taper dedans. Sauf qu'on se rend compte que la pratique du maïs, c'est 2000 km de cours d'eau chaque année à sec en Poitou-Charentes. Et c'est d'autres activités comme l'ostréiculture sur le bassin ostréicole de Marraine-Oléron qui sont menacées par le développement de cette culture de maïs. Donc c'est juste n'importe quoi et c'est en plus financé par de l'argent public.
Le maïs, la pompe afrique de l'Europe vache à lait pour des élevages que l'on sait douteux.
Après, quand on se pose la question du maïs, à quoi ça sert le maïs? Ça sert à nourrir des animaux qui sont élevés dans des conditions détestables pour faire de la production de viande ou de lait de qualité douteuse en plus. Moi, je vais jusqu'à dire que c'est douteux. Moi, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de maïs pour faire de l'élevage? Quand on fait manger de l'herbe à des herbivores, ça se passe bien.
Le maïs, pompe afrique et pompe à eau qui, à terme, coupe l'herbe sous le pied de l'agriculteur.
Bâtir une stratégie d'élevage autour du maïs qui est pauvre en protéines et qui a besoin de compléments de soja, on commence à s'engager dans un cercle vicieux qui fait que les animaux mangent plus d'herbe, ils sont enfermés dans des bâtiments toute l'année. Nourris à base de maïs et de soja, qui nécessitent des traitements médicamenteux vétérinaires lourds. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Et après, on a des éleveurs qui nous disent il faut revaloriser notre prix de vente de nos produits parce que nos coûts de production sont élevés. Moi, j'ai pas de problème de coûts de matière première puisque j'ai des animaux qui broutent de l'herbe en été et qui mangent de l'herbe séchée en hiver sous forme de foin. Et la fluctuation des cours au niveau mondial, ça m'impacte pas du tout. J'ai des herbivores qui mangent de l'herbe. En tout cas, si on veut revenir sur des modes de fonctionnement équilibrés, il faudra sûrement remettre en cause la production de maïs localement.
Chez Benoît Biteau, de l'herbe et des races adaptées à la région.
Qui dit retour de l'herbe, dit retour de l'élevage, et pas n'importe quel élevage, c'est-à-dire que je m'appuie que sur des races locales et à faible effectif, donc des races qui ont failli disparaître, qui pourtant étaient les piliers de l'économie locale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va dire, que ce soit la maraîchine qui est à l'origine du beurre à Auxerre-Charente-Poitou, que ce soit la chef poitevine qui est à l'origine de la réputation picto-charentaise autour de ses fromages de chèvre, que ce soit le trépoix de vin et le baudet du Poitou qui est associé dans ce qu'on appelle la production de mules, était la première région au monde de diffusion de mules. Il s'exportait de la région Poitou-Charentes 20 000 mules par an qui partaient des ports de la façade atlantique dans le monde entier, 20 000 mules par an. Donc voilà, c'était des vrais piliers de l'économie locale qu'on a oublié dans l'émergence de ce modèle standardisé, homogénéisé, et où on veut faire partout le même lait, partout dans le monde, hein, c'est pas juste en France, partout le même lait, partout la même viande, et avec des animaux qui sont pas forcément adaptés aux zones de production, qui nécessitent de mettre en place des bâtiments qui coûtent cher à l'agriculteur. Enfin, moi j'élève, par exemple, j'élève mes chevaux de trait et mes bovins en plein air intégral. Et si je peux faire ça, c'est parce que j'ai une race locale, adaptée à mes conditions d'élevage, qui font que j'ai pas besoin de mettre en place un bâtiment pour élever mes animaux. Et donc, on a la chance d'être sur une zone où le climat est pas trop rude. Si en plus, on utilise la génétique locale qui est adaptée à ce climat-là, on a des possibilités d'élevage qui sont à moindre coût. Et c'est comme ça qu'on trouve la rentabilité économique.
Benoît Biteau, toutes ses productions sont labellisées agriculture biologique et distribuées en circuit court uniquement. Benoît Biteau, agriculteur biologique en Charente-Maritime. La Charente-Maritime, pas très loin des champs de maïs, les ostréiculteurs allaient savoir s'ils échangeraient leurs bourriches pour des sacs de pop-corn.